Donc, nous avons terminé la matinée en parlant de quelque chose d'assez intéressant, je crois, qui s'appelle la pédagogie. L'idée est la suivante dans cette table ronde, c'est de peut-être de descendre un petit peu dans les pratiques, puisque sur la question de l'éducation à la laïcité, on a parlé ce matin par exemple, de rentrer par la limitation à la liberté ou plutôt par des modélisations pédagogiques permettant de construire le débat. Et je crois que derrière ces questions, nous avons des véritables questions pédagogiques pour traduire les intentions développées ce matin en action, en acte, au quotidien. Donc sur cette table ronde, notre fil rouge sera pourquoi et comment les enseignants s'emparent-ils de l'enseignement des faits religieux. Pour aborder ce thème, nous aurons donc trois interventions. Donc la première intervention, je vais me tourner, sera celle de Lola Petit. Lola Petit est docteur en sociologie des religions et chargée de recherche, membre du groupe de sociologie des religions et de la laïcité, si j'ai bien compris, et a fait une thèse de doctorat à l'école de pratique des hautes études sous la direction de Philippe Portier, enseignement des faits religieux à l'école primaire. Voilà. Nous entendrons ensuite Régis Godemer qui est professeur des écoles, doctorant au laboratoire CIRNEF, hein, formateur en Master 1 et Master 2 à l'ISFEC de Normandie. La thèse qui est en construction porte sur la question de l'enseignement du fait religieux. Et nous allons parler, là, cet après-midi, des situations liées aux religions dans les collèges défavorisés. Et enfin, nous entendrons Sébastien Urbanski, qui est donc à l'Université de Nantes maître de conférence, membre du CREN, c'est-à-dire le Centre de recherche en éducation de Nantes, associé également au laboratoire éducation, culture et politique de l'Université de Lyon, qui travaille sur les croyances collectives, les contenus d'enseignement et le travail dans les établissements scolaires. Je crois que le dernier ouvrage est un ouvrage de 2016 sur l'enseignement du fait religieux, école, république et laïcité. Voilà. Et donc, on va commencer dès à présent. Nous aurons donc trois interventions successives, et après quoi, vous pourrez prendre la parole pour réagir et poser vos questions, comme ce matin. Et nos intervenants pourront enrichir leurs propos à partir de vos interventions. Voilà. Lola.
Merci. Voilà. Bonjour à tous. Merci à l'ESPE de Caen, merci au CIRNEF pour cette invitation, et un merci tout particulier à Pierre Kahn. Ma thèse porte sur l'enseignement des faits religieux à l'école élémentaire publique. Elle a été réalisée en collaboration avec l'association Enquête, dans le cadre d'un partenariat, d'un dispositif de subvention de la région Île-de-France intitulé Partenariat Institutions Citoyens pour la Recherche et l'Innovation, dont l'acronyme est PICRI. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? L'enseignement des faits religieux est un sujet à la croisée de questionnements qui relèvent de la recherche fondamentale et de l'action politique. Il se déploie dans le cadre d'une réflexion générale sur la laïcité et il ouvre sur une réflexion interrogeant le modèle d'intégration à la française qui doit, selon moi, articuler le dépassement de l'opposition entre raison et religion à la recherche d'un monde commun de signification. Une des thèses de ce travail est que la finalité d'éduquer à la laïcité constitue une condition nécessaire pour légitimer l'enseignement des faits religieux, qui est un moyen privilégié pour le faire. Par ailleurs, tout au long de mon enquête de terrain, il est apparu que la laïcité scolaire était appréhendée non plus uniquement comme un cadre juridique et éducatif, mais aussi comme un objet d'éducation transversale. Bon, comme on l'a vu toute cette matinée, la question de l'enseignement des faits religieux n'est pas nouvelle. Depuis 30 ans, de nombreux universitaires et acteurs de l'éducation nationale y travaillent. Les réflexions et contenus qui sont dans ma thèse s'inscrivent dans la lignée des analyses proposées par des travaux en sciences sociales des religions et de la laïcité, notamment les travaux du groupe Société Religion Laïcité, les travaux de l'École pratique des hautes études et les travaux de l'Institut européen en sciences des religions. Néanmoins, ces recherches portent sur l'enseignement secondaire. Ma thèse s'inscrit dans cet héritage et y apporte une contribution par le choix d'un terrain vierge, l'école élémentaire. Pourquoi ? D'une part, parce que les enfants de fin de primaire posent très tôt des questions au sujet du religieux dans leur environnement. Ils se montrent curieux et sensibles à ces thématiques. Et ils disposent d'une capacité à conceptualiser assez facilement mobilisable, qui leur permet d'appréhender ces thématiques complexes. On rencontre chez eux une appétence et une curiosité dégagée des contingences adolescentes. D'autre part, parce que la polyvalence des professeurs des écoles constitue un atout pour mettre en œuvre cet enseignement interdisciplinaire. Enfin, l'étude de la place des faits religieux dans les discours des politiques et dans les prescriptions officielles concernant le niveau élémentaire permet de compléter les recherches universitaires consacrées à cet enseignement dans le secondaire, en apportant de nouveaux éléments sur l'histoire contemporaine de cette politique publique. Cette recherche s'est déroulée de 2013 à 2018. Durant une période charnière, un changement de majorité politique, la création des ESPE, la promulgation de la loi pour la refondation de l'école, la promulgation de l'enseignement moral et civique, et elle a bien sûr été marquée par les attentats qui ont touché la France et qui ont donné lieu à la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Ma recherche se fonde sur la pluralité des techniques d'enquête, une enquête qualitative complétée par une enquête quantitative. La possible dissimulation par la hiérarchie des difficultés rencontrées par l'éducation nationale dans la mise en œuvre de cette politique publique dès l'école élémentaire a motivé le choix d'une stratégie d'enquête de bas en haut. Dans ce cadre, j'ai réalisé une quarantaine d'entretiens non directifs et semi-directifs avec des professeurs, des conseillers pédagogiques et des inspecteurs de l'éducation nationale tout au long de ma recherche. Des observations dans 8 classes de 7 écoles parisiennes, ainsi que des observations de stages de formation initiale et continue. Et enfin, la conception d'un questionnaire pour l'administration d'un sondage auprès de 345 professeurs des écoles. Revenons sur les principales conclusions de mon travail. Ma première partie est consacrée à la genèse et aux évolutions de l'enseignement des faits religieux à l'école élémentaire, met en évidence que depuis une trentaine d'années, les acteurs politiques et institutionnels se montrent globalement favorables à un enseignement laïque et interdisciplinaire des faits religieux. L'élaboration de cette politique publique prend véritablement corps à la fin des années 1980 et cet enseignement est inscrit dans les prescriptions officielles en 2006 via le socle commun. Cette évolution ne s'est pas faite sans critique, réticence et tensions sociales. Certains chercheurs et décideurs politiques voient dans l'enseignement des faits religieux un projet de reconfessionnalisation de l'école, ou bien encore de réhabilitation du religieux qui serait nécessairement source d'obscurantisme. Dans les deux cas, ils l'appréhendent comme le terreau de revendications identitaires et d'exigences particularistes, dès lors contraires au projet d'émancipation de l'école républicaine. D'autres acteurs y sont favorables, mais ne s'accordent pas nécessairement sur les justification qui permettrait de le légitimer. Certains, et c'est la tendance qui a prévalu lors des premières années d'élaboration de cet enseignement, lui accordent une finalité exclusivement patrimoniale. Il reviendrait à l'école de transmettre des connaissances sur les religions et les convictions, car tous les phénomènes sociaux doivent faire l'objet de savoirs scolaires. D'autres considèrent que cet argument ne suffit pas à le légitimer, puisqu'il ne répond dans ce cas à aucune urgence ou priorité politique et sociale. Tandis que conçu comme une composante de l'éducation à la laïcité, l'enseignement des faits religieux trouve une légitimité dans la mesure où il constitue un moyen de permettre aux élèves de se reconnaître dans une communauté de citoyens unis par-delà la diversité de leurs convictions. Depuis les années 2000, la finalité citoyenne de l'enseignement des faits religieux ne cesse de s'affirmer et de s'affiner dans les discours de certains acteurs politiques, d'intellectuels et de corps intermédiaires de l'éducation nationale. Pourtant, une indétermination demeure dans les prescriptions officielles concernant, d'une part, l'articulation de l'enseignement des faits religieux à l'éducation à la laïcité, et d'autre part, concernant sa place à l'école élémentaire. Enfin, concernant la traduction pédagogique de sa nature interdisciplinaire dans des programmes scolaires qui sont conçus de manière disciplinaire. Le sondage réalisé en janvier 2016 auprès de 345 professeurs a mis en évidence que si une majorité des sondés, 59%, est favorable à l'enseignement des faits religieux, une minorité seulement le met en œuvre, 39%. Cet écart entre intention et passage à l'acte s'explique par la nature socialement vive de ce sujet, le manque de connaissances, de formation et d'outils pédagogiques. Néanmoins, suite aux attentats de janvier 2015, on assiste à une prise de conscience de l'urgence de s'emparer de ces questions qui s'est traduite par une accélération du tournant pédagogique opéré par l'éducation nationale. C'est à ce titre que je parlais tout à l'heure du parcours de formation qui existe sur Magistère, qui s'appelle l'enseignement laïque des faits religieux. Et vous le verrez tout à l'heure une des vidéos, l'engagement du ministère dans la production d'un outil qui Vince et Lou, donc un pack numérique éducatif pour permettre d'aborder ces sujets. C'est ainsi que se déploie une pédagogie de la laïcité qui semble d'abord constituer une occasion de pérenniser la promotion de l'enseignement des faits religieux. Tandis que dans un second temps, la visibilité de cet enseignement diminue, tant la laïcité devient une priorité dans les discours politiques et les instructions officielles. On peut y voir le signe d'une subordination de l'enseignement des faits religieux à l'éducation à la laïcité. J'ai réalisé des observations dans différentes classes de cycle 2 et 3, donc du CP au CM2, pour analyser dans la deuxième partie de ma thèse les pratiques des professeurs qui enseignent les faits religieux par le truchement de différents dispositifs pédagogiques. Pour réaliser une analyse critique de leurs pratiques, il fallait tenter de définir un modèle d'enseignement laïque des faits religieux au regard de la définition juridique de la laïcité scolaire et des données récoltées lors de ma recherche en vue de situer les pratiques de ces professeurs au regard de ce modèle. Alors, quelles sont les trois principales finalités qui semblent être associées à cet enseignement, à ce modèle d'enseignement laïque des faits religieux? D'abord, d'apprendre aux élèves qu'il existe une pluralité de convictions et une diversité interne à chacune d'elles. Ensuite, d'amener les élèves à comprendre que les convictions sont un domaine sur lequel les individus peuvent être en désaccord, contrairement aux connaissances scientifiquement établies. Ainsi, les élèves déduisent de la diversité des convictions l'utilité concrète de la laïcité. Permettre à des personnes de différentes convictions de vivre ensemble et à chaque individu de déterminer le plus librement possible sa conviction religieuse, athée ou agnostique et sa façon de la vivre dans le respect des lois républicaines. Enfin, la dernière finalité consiste à favoriser le développement de l'exercice de l'esprit critique des élèves en l'appliquant aux convictions pour leur permettre d'exercer leur liberté de conscience. Les professeurs rencontrés ont en commun d'enseigner les faits religieux dans une perspective citoyenne et de porter au sein de cet enseignement une attention particulière au traitement de l'islam. Ils opèrent des bricolages pédagogiques rendus nécessaires par la rareté des outils, leur manque de formation et l'absence de préconisations institutionnelles quant au savoir intermédiaire, c'est-à-dire les manuels scolaires et les outils pédagogiques, adéquats. Donc, dans leur cas, les trois cas que j'ai décrits en détail dans ma thèse, l'un des professeurs a mis en œuvre l'Arbre à défis, qui est un jeu développé par l'association Enquête. Un autre a bricolé sa pratique à partir d'une série de 4 vidéos de l'émission C'est pas sorcier, consacrée aux 3 religions monothéistes. Tandis que le dernier s'est appuyé sur l'ouvrage Les récits de création, développé par l'Institut européen des sciences des religions et le ministère de l'Éducation nationale. Ce constat pourrait laisser penser qu'il existe autant de manières d'enseigner les faits religieux que de professeurs qui s'en emparent. Néanmoins, il apparaît au terme de cette étude que par-delà la grande diversité des bricolages pédagogiques observés, les 3 cas développés sont représentatifs d'orientations partagées par les autres professeurs, dont j'ai observé les pratiques dans le cadre de ma thèse, à savoir la poursuite des 3 finalités que j'ai évoquées précédemment et le recours à des outils clés en main. Eu égard au modèle d'enseignement laïque des faits religieux proposé, j'ai repéré 4 difficultés principales dans les pratiques des professeurs. Le premier écueil relevé est lié au respect de l'obligation de neutralité, à la difficulté des professeurs à se représenter sa pertinence pédagogique et à la transposer dans leur enseignement. Je vais vous donner un premier exemple. Je cite « Je dis à mes élèves que je suis croyant, comme ça ils savent que j'ai des connaissances sur les religions. » Ici, l'enseignant ne réalise pas qu'implicitement, il risque de transmettre aux élèves l'idée qu'il serait nécessaire d'avoir une religion pour disposer de connaissances sur les convictions. Deuxième exemple, je cite, « Dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, il existe différentes façons d'honorer Dieu. Mais est-ce très important ces gestes ? Non, le plus important, c'est d'être convaincu que Dieu existe et d'être sincère quand on a envie d'honorer son Dieu. » Ici, l'enseignant ne réalise pas qu'il ne se situe plus dans un enseignement laïque des faits religieux, mais plutôt dans un questionnement d'ordre théologique, dans une perspective interne aux religions. Par ailleurs, il opère une hiérarchie entre croyances et pratiques religieuses qui constitue un manquement à son obligation de neutralité et ne préserve pas la nature laïque de l'enseignement des faits religieux. Un deuxième écueil important consiste en une assignation souvent inconsciente des élèves par les enseignants, des élèves à une religion ou à une conviction. Cet écueil entraîne une difficulté connexe, la non-systématisation de la distinction entre savoir et témoignage. Ainsi, il arrive aux enseignants d'ériger les élèves en experts de leur religion, réelle ou supposée, faisant de ces derniers les détenteurs du savoir. Ces difficultés sont parfois renforcées par un manque d'attention portée au choix d'un vocabulaire précis et de précautions de langage pourtant centrales dans cet enseignement, comme des modalisateurs ou le conditionnel. Premier exemple, je cite « Puisque Matthieu est chrétien, il va nous dire en quoi consiste le baptême. » D'une part, l'enseignant fait part à tous les élèves du fait que Matthieu est chrétien, alors que cet élève ne souhaitait peut-être pas le faire savoir. D'autre part, ce faisant, il sous-entend que le témoignage de Matthieu constitue un savoir objectif sur la pratique du baptême, lorsqu'il s'agit en fait d'un témoignage subjectif lié à son expérience personnelle. Deuxième exemple, Mohamed a reçu la révélation du Coran. Ici, l'enseignant, pour demeurer dans un enseignement laïque, devrait plutôt dire, soit... Selon les croyances des musulmans, Mohamed a reçu la révélation du Coran, soit Mohamed aurait reçu la révélation du Coran. Un troisième point tient à leur difficulté à sélectionner puis à hiérarchiser les savoirs à transmettre. Ici, je donne un seul exemple. Il ne serait pas pertinent d'apprendre aux élèves en quoi consiste le baptême chrétien avant de leur apprendre la croyance commune aux chrétiens selon laquelle Jésus est mort puis ressuscité. Enfin, il faut souligner le risque d'une approche possiblement édulcorée qui passerait sous silence les rapports de concurrence ou de contradiction entre différentes convictions. Par exemple, la première émission « C'est pas sorcier » de la série en 4 épisodes sur le judaïsme, le christianisme et l'islam s'intitule « Un dieu, trois religions ». Lors d'une observation en classe, l'enseignant interroge ses élèves pour savoir, je cite, « s'il s'agit du même dieu dans ces trois religions ». Outre le fait qu'il ne se situe plus là dans un enseignement laïque, mais un questionnement à nouveau d'ordre théologique, tout au long de l'émission et de son décryptage avec les élèves, cet enseignant entend mettre en évidence uniquement les croyances et les personnages communs à ces trois religions. Ces difficultés sont en partie liées à la qualité des outils mobilisés, dont certains présentent eux-mêmes les écueils évoqués. En particulier, la série d'émissions « C'est pas sorcier ». Tout simplement parce qu'elle n'a pas été conçue pour le champ scolaire. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible d'utiliser ces émissions, mais il est nécessaire que l'enseignant fasse un travail de transposition qui permette de garantir la laïcité de l'enseignement des faits religieux, la nature laïque. Nonobstant, tous ces professeurs sont parvenus à atteindre les finalités qu'ils s'étaient fixées. Tous ont réussi à mettre en pratique l'interdisciplinarité de cet enseignement. Ils ont pris en charge l'enseignement de questions sensibles, qui nécessitent qu'ils se départissent de la forme scolaire traditionnelle, qu'ils aient recours à des savoirs intermédiaires idoines, ou encore à l'expérimentation et à l'invention de dispositifs pédagogiques. Leurs élèves ont acquis des connaissances élémentaires, contribuant à l'appréhension de la place et du rôle du religieux dans le monde contemporain, une intelligibilité culturelle et historique du patrimoine mondial, un apprentissage de la diversité des croyances, des convictions et des pratiques religieuses actuelles. La compréhension de l'utilité concrète de la laïcité, ainsi qu'à la déconstruction de confusions courantes et de stéréotypes. Leur pratique pédagogique atteste qu'il est possible d'enseigner les faits religieux pour éduquer à la laïcité et qu'il est nécessaire de les accompagner pour soutenir et améliorer leurs pratiques. Pour terminer cette présentation, je souhaiterais vous montrer une des 5 vidéos du pack numérique éducatif Vince et Lou, sur la laïcité et les faits religieux, publié à l'automne 2017. Ce pack a été coproduit par la société de production Tralalair, par Enquête et Canopée. Je précise que ces vidéos ne se suffisent pas à elles-mêmes. Elles sont destinées à susciter la discussion. Pour ce faire, à chaque vidéo est associée une fiche pédagogique qui permet aux enseignants d'accompagner les élèves dans le décryptage. Là, je vais vous montrer la vidéo qui s'intitule « 1001 pratiques ». Les autres vidéos, il y en a une qui porte sur savoir et croire, une sur la laïcité, une sur le calendrier et une sur les symboles religieux et républicains.
Eh, vous savez quoi? Hier, je suis allé chez Bob pour les devoirs. Ah ouais? Cool. Eh ben, Bob... Il est musulman. Et n'importe quoi. Ben si, quand je suis arrivé chez lui...
Salut Diego.
Salut Bob, ça va?
Ouais, bof.
Tiens, je t'ai apporté tes cours.
Mais qu'est-ce qui se passe ici?
Et là, il y avait sa mère, voilée. Et son père, il avait une grosse barbe.
Mais ça veut rien dire. Mon père, il a une barbe et il n'est pas musulman.
Et puis, il y a des femmes musulmanes qui portent pas de voile. En plus, moi, je crois plutôt qu'il est catholique.
Salut, Carole.
Salut, Salut Bob, ça va?
Moi.
Tiens, je t'ai apporté tes cours.
Super, merci.
Eh ben son père, il était en train de prier, à genoux.
Mais c'est pas forcé, moi ma grand-mère elle est protestante, et ben elle prie à genoux aussi.
Ah et puis c'est sûr, il est juif hein.
Salut Fitz.
Ouais, salut Bob, ça va?
Bob.
Ouais, tiens Bob, les cours.
Super, merci.
Ouais, eh ben, sa mère, elle avait une kippa sur la tête. Ah, n'importe quoi, Vince. Les femmes, elles portent pas de kippa. C'est les hommes.
Ouais, et qu'est-ce que t'en sais, hein? Y a peut-être des hommes qu'on porte pas, hein.
C'était une crêpe.
Ouais.
Ta kippa, Vince. C'était une crêpe. Qui en veut? C'est ma mère qui les a faites.
Personne ne peut dire à ma place qui je suis.
Mais alors, t'es musulman?
Non.
T'es catholique?
Non.
T'es bouddhiste?
Non plus.
Hindouiste alors?
Bah non.
Ouais, je sais, t'es protestant. Oh non, Rastafari. Ou alors taoïste.
Arrête Vince, tu me saoules.
Voilà. Céder la place à Régis.
Ça marche. Oui. Merci pour cette présentation. Donc on va maintenant laisser la place à Régis. Je me suis trompé dans mes présentations tout à l'heure, donc je m'excuse auprès des intervenants. Régis Godbert va intervenir sur la question de traiter les faits religieux en classe, ce que font réellement les enseignants. Et c'est avec Sébastien Barski qu'on parlera des situations liées à religion dans les collèges défavorisés, pour rattraper mon erreur. Est-ce que ça fonctionne?
Ça va fonctionner. Ouais.
D'accord, bon bah très bien.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à Pierre Kahn. Merci à Isabelle Arlé. Merci à l'association Enquête. Je suis vraiment très heureux d'être ici. Alors, donc je suis professeur des écoles, je suis formateur à l'ISFEC et je suis doctorant. Et je vais vous faire part d'une partie de ma recherche aujourd'hui. Alors pour commencer, comme je suis aussi enseignant, je vais vous montrer, et c'est peut-être le plus grand risque que je prends aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple, un tout petit extrait d'un travail que j'ai fait avec mes élèves, qui dure 14 minutes, mais là, évidemment, ça va durer 3 minutes. C'est un tout petit extrait pour planter le décor, et ensuite, ça va permettre d'avoir un objet commun, et puis je vais pouvoir en parler ensuite et vous dire dans quel cadre j'ai fait ce travail.
Alors, ouvrir.
Pris dans mon enthousiasme, je devais quand même vous situer le décor un petit peu avant de commencer. En fait, je suis allé avec ma classe à Bayeux pour découvrir la tapisserie. Et on en a profité pour aller voir la cathédrale aussi. Et donc, en amont, on a préparé la visite de la cathédrale. Donc, j'ai demandé à mes élèves d'assurer cette visite guidée. Pour ce faire, je leur ai donné des documents, ils ont fait des recherches. Et chacun était responsable d'une partie de la cathédrale. Donc, ça, c'était pour le décor. Et je suis tombé sur un discours de Jean-Michel Blanquer pas plus tard que la semaine dernière. Et ça tombe vraiment très bien, puisqu'il dit, et ça illustre un petit peu aussi mon travail, il dit « Nous devons donner à nos enfants des racines et des ailes ». Alors là, j'étais vraiment très étonné de voir les grands esprits. Ils doivent savoir d'où ils viennent et où ils vont. Quand vous faites une visite dans une cathédrale aujourd'hui, souvent les enfants ignorent tous les codes qui permettent de comprendre l'endroit où ils sont. De la même façon, il y a des interprétations complètement sauvages des différents textes sacrés. J'ai vu ça la semaine dernière. Ce travail a été fait il y a un mois, je crois. Donc j'ai trouvé que voilà, c'était à propos. Donc vous avez le contexte. Maintenant, vous pouvez écouter ces quelques élèves parmi toute ma classe.
Pour se repérer dans une église.
Ou une cathédrale.
L'entrée d'une église est toujours à l'ouest.
C'est une vraie boussole. On entre dans une église, on se dirige vers l'est, où le soleil se lève.
Le soleil qui se lève, c'est le symbole de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi les églises sont toujours construites dans cette direction. Ici, nous sommes dans le nef. Le mot nef signifie navire. L'église, c'est comme un bateau dans lequel les chrétiens voyagent. Dans les chapelles, on enferme un objet en lien avec un saint.
Le transept, c'est une croix comme la croix dont parlent les évangélistes quand ils disent comment Jésus est mort. Le chœur, c'est la partie de l'église où on chante la messe.
Nous voici arrivés devant le portail sud. Le portail sud représente la partie du jugement. Tout en haut de cette colonne, on voit le diable. À gauche de lui, on voit les morts qui sortent de leur tombeau sur deux lignes. À droite, on distingue l'enfer. Tout en haut, on voit le Christ en majesté et deux anges. Tous les personnages autour sont soit des anges ou des personnages christianistes importants. Les deux grosses statues en haut sont des gargouilles.
Devant vous est une interprétation de la naissance de Jésus. Le peintre a lu le passage suivant pour peindre son tableau. Elle a donné naissance à son fils, le premier-né, l'a emmailloté et l'a couché à l'abri d'une étable. Il n'y avait plus de place pour eux dans l'auberge. Sur le tableau, Marie et Jésus portent du blanc, ça représente leur pureté. Marie porte du bleu, ça représente son rapport avec le ciel.
Bonjour mesdames, messieurs, je vais vous expliquer le tableau de Jésus dans une mandorle. Ce tableau, il montre Jésus dans une mandorle. Donc la mandorle, c'est le truc violet que vous voyez. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous expliquer tous ces symboles. Le premier symbole, c'est une nimbe crucifère au-dessus de la tête de Jésus et des anges aussi. Le deuxième symbole, c'est la mandorle. Elle symbolise le passage d'un monde à l'autre. Comme je vous ai dit, c'est le truc violet qui passe au-dessus de la tête de Jésus. Comme par exemple, quand Marie a accouché, elle avait une mandorle entre les deux seins. Sur certains tableaux, les peintres ils ont voulu exprimer ça, mais en vrai, elle n'en avait pas. Et ici, c'est le passage du monde des vivants au paradis. Le troisième symbole, c'est l'ange. Il est le rapporteur entre le ciel et la terre. En sixième, on a la croix, qui signifie la mort de Jésus. Les peintres ont voulu exprimer de la gaieté, du bonheur, de la tristesse et de l'amour.
Ensuite, au moment du putain, d'accepter. Voilà. Bien, alors... Le contexte de tout ça. Alors, tout a commencé me concernant quand j'ai voulu étudier, il y a quelques années de ça, il y a 5-6 ans peut-être, un peu plus, j'ai voulu étudier Le géant égoïste de Oscar Wilde. Alors c'est un conte magnifique, mais qui a une petite particularité, c'est que l'un des personnages secondaires, qui est presque le personnage principal d'ailleurs, c'est l'enfant Jésus qui accepte de faire entrer le géant le jour de sa mort dans son jardin, comme naguère le géant a accepté de faire entrer l'enfant dans le sien. Alors voilà l'extrait, c'est vers la fin du conte, hein, l'extrait qui pose problème dans ce livre, enfin qui pose problème en tout cas, qui peut poser question, c'est « Le géant descendit l'escalier en courant, tout joyeux, il se précipita dans le jardin vers l'enfant. En arrivant près de lui, il rougit de colère et cria « Qui a osé te blesser ?» Car les mains du petit garçon portaient les marques de deux clous et ses petits pieds aussi. » Alors quand j'ai vu ce texte, je me suis demandé comment traiter ce passage, donc je me suis interrogé, j'ai été sur Internet, et après quelques recherches sur des sites, des réseaux sociaux pour enseignants, comme Néoprof par exemple, je suis tombé sur des commentaires qui m'ont vraiment surpris, comme celui-ci par exemple, les résonances évangéliques dont parle la quatrième de couverture et les caractéristiques de l'enfant conviendront aux croyants convaincus et dérangeront ceux pour qui ces résonances n'ont aucun sens. D'autres diront « Comment ne pas entrer dans les détails et surtout faire passer ce petit garçon comme un personnage magique et non religieux ?» Merci. C'était une demande faite sur le site. « Le géant égoïste est à éviter d'après moi. Je me suis fait avoir, j'en ai acheté 15, sans le lire. Et en fait, à la fin du bouquin, on se rend compte que le petit garçon de l'histoire, c'est Jésus. » Un autre dit « La fin, eh bien, on la coupe et hop !» Et puis, un exercice était proposé aussi sur les sites où on dit « Où vit l'enfant au paradis ?» Donc ça, c'était plutôt juste. « Que représente-t-il en réalité ?» Réponse attendue des élèves, un ange qui vient chercher le géant. Donc en lisant tout ça, j'ai quand même été très surpris par les réponses de mes collègues sur Internet, surpris par aussi la pluralité des réponses, mais aussi surpris, vous le voyez très bien, par la gêne évidente que ce passage occasionnait pour les enseignants. C'est à ce moment que j'ai pressenti que nous, les enseignants, de primaire en tout cas, ont déployé des stratégies variées sans doute, pour aborder les nombreux objets scolaires qui ont une dimension religieuse, que ce soit en histoire, en musique, en géographie ou en histoire des arts. Donc là, j'avais une petite puce à l'oreille et puis d'autres choses que je n'ai pas le temps de développer ici m'ont mis aussi la puce à l'oreille sur des stratégies qui étaient quand même assez étranges. Alors, quelles sont ces stratégies ? Alors, pour les repérer, les classer, les catégoriser et en dresser une typologie, eh bien, j'ai réalisé un questionnaire auprès d'enseignants du primaire et il y a eu 204 enseignants qui ont répondu et j'ai réalisé aussi 24 entretiens, 12 auprès d'enseignants du public et 12 auprès d'enseignants du privé. En fait, je cherchais à comprendre non seulement les démarches, les stratégies que les enseignants déployaient pour enseigner les objets du programme qui ont une dimension religieuse. Ma question n'était pas seulement comment les enseignants enseignaient la dimension religieuse des objets scolaires, mais aussi identifier et comprendre les argumentations qui justifiaient les choix qui étaient effectués par les enseignants. Alors, je vais aller tout de suite. Hop, je passe tout ça. Ça, c'était pour vous montrer tous les types d'objets. Ce que j'appelle les objets scolaires, en fait, c'est tout ce qu'il y a dans le programme qu'on doit travailler, qu'on doit transmettre aux élèves. Et certains de ces objets ont une dimension religieuse, comme ce que vous voyez ici, et que peut-être d'ailleurs vous n'avez jamais vu à l'école et que peut-être vous ne transmettrez jamais, comme par exemple la nativité de Gauguin ou la résurrection de Lazare et de Van Gogh. C'est-à-dire qu'on connaît très bien Gauguin, on connaît très bien Van Gogh, mais alors ces œuvres-là, bizarrement, ce sont des œuvres qui sont très peu connues, voire très peu transmises. Mais c'est pas bizarrement, évidemment, c'est parce qu'il y a une dimension religieuse qui peut-être gêne les enseignants. Je vais développer tout ça après. Alors, après avoir m'être entretenu avec pas mal de personnes, ce qui fait à peu près 300 pages d'entretien, j'ai repéré en fait 9 stratégies distinctes pour enseigner des objets scolaires qui ont une dimension religieuse. Alors, parmi ces 9 stratégies, j'en ai mis 5 d'un côté que j'ai appelées des stratégies d'éviction et puis 4 autres stratégies de l'autre côté que j'appelle les stratégies de dissimulation. Alors, je vais vous les développer et vous les expliquer. Alors, la première stratégie, c'est ce que j'ai nommé la stratégie de l'autocensure. Donc, c'est la plus radicale de toutes les stratégies utilisées par les enseignants. Quand je mets 100%, ça veut dire qu'au moins une fois dans le discours, les enseignants font appel à cette stratégie. Alors, peu importe pour quel objet, ça peut être pour lire un texte des évangiles, ça peut être pour lire un texte de l'Ancien Testament ou présenter un tableau qui a une dimension religieuse, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, sur les 24 personnes que j'ai interrogées, tous ont eu recours à un moment donné à cette stratégie d'autocensure. Donc, par exemple, les enseignants diront je ne lirai pas le texte historique dans lequel il y a des références religieuses. Donc là, j'ai donné un texte d'un manuel dans lequel on parlait de Saint-Jacques de Compostelle parce qu'il y avait une dimension religieuse, donc l'enseignant ne voulait pas le lire. Un autre dit quand les élèves commencent à parler de religion, je dis « Bon, et attends, Janice, à ton avis, est-ce que tu as le droit de parler de ça? Est-ce que tu penses que je vais pouvoir te répondre ?» Et là, il me répond « Non, 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 c'est vrai, j'ai oublié. » Donc, vous voyez qu'il y a des situations où des objets scolaires, on voit bien qu'il y a une forme d'autocensure parce qu'il ne faut pas en parler. On met ça de côté parce que c'est trop dangereux, c'est trop soit trop prosélyte pour certains. Pour d'autres justifications, c'est que ça atteint le principe de laïcité. En tout cas, on n'est pas suffisamment neutre si on en parle. Certains disent qu'ils sont dans un établissement public, donc on ne doit pas parler de ces objets, avec en arrière-plan une assimilation avec la loi de 2004, la loi de 2004 que vous connaissez, qui dit qu'on ne doit pas montrer de signes religieux ostentatoires dans les écoles publiques. Et donc les enseignants pensent qu'eux aussi n'ont pas le droit du coup de montrer des objets qui ont une dimension religieuse. Mais l'enseignement catholique, on a tout à fait le même problème, c'est-à-dire de dire les enseignants, pour beaucoup, disent « Non, 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 ces objets-là, moi, je ne vais pas les enseigner en classe. De toute façon, on a une heure spécifique, on a un caractère propre, on a une heure spécifique. Donc, ça va être travaillé pendant ce moment-là. » Donc, vous voyez, en classe, ça ne se fait pas, de toute façon, que ce soit dans le privé ou dans le public, pour certains objets, pas pour tous les objets, bien entendu. Mais je dis simplement que j'ai repéré cette stratégie pour certains des objets scolaires qui sont à transmettre. Une autre catégorie, et c'est la privatisation. Alors celle-ci, c'est dans le discours, elle apparaît aussi à de nombreuses reprises. C'est une stratégie en fait qui consiste à déléguer ou à reléguer tout ce qui a une dimension religieuse à la religion concernée. Donc par exemple, tout à l'heure vous aviez la scène de Léonard de Vinci. La scène de Léonard de Vinci parle du christianisme, parle de Jésus, des apôtres. Bon, eh bien cette œuvre appartient plutôt à la religion concernée. C'est une œuvre qui appartient à la religion. Donc si elle appartient à cette religion-là, elle ne doit en aucun cas apparaître à l'école ou être transmise à l'école. Alors que ce sont des objets qui sont dans le programme, bien entendu. Voilà, par exemple, un enseignant dira « J'imagine que les parents, quand ils inscrivent leurs enfants, ils savent qu'on est dans une école catholique et que de toute façon, la dimension religieuse sera travaillée. » Donc, en fait, ce que ça signifie quand elle dit ça, c'est que puisqu'on est dans un établissement catholique, c'est normal que l'on parle de ces œuvres puisque ce sont des œuvres catholiques. Alors que y a pas, ça appartient au domaine public. Enfin, je veux dire, la scène de Léonard de Vinci, ça appartient à l'ancienne comédie humaine, ça appartient à la culture de tous et pas simplement à l'école catholique ou aux catholiques. D'autres diront, quand on fait la scène par exemple, on travaille de la religion. Mais je pense qu'un enseignant du privé pourrait tout à fait le travailler dans la classe. Mais ici, trois petits points, bon, ici, ben, c'est pas possible. Donc vous voyez qu'on renvoie, en fait, on privatise des objets scolaires à la religion concernée. Donc là, je parle du christianisme, mais c'est idem pour l'islam ou pour d'autres religions. Une autre stratégie identifiée dans tous les discours, c'est ce que j'ai appelé l'externalisation. Alors c'est une stratégie qui consiste à externaliser le traitement d'un objet d'enseignement qui a une dimension religieuse dans d'autres lieux ou d'autres temps. Donc on va dire, par exemple, si un objet a une dimension religieuse, les enseignants vont dire « oui, oui, c'est très bien, et puis ça fait partie de la culture, hein, mais pas ici ou pas maintenant ». Donc on va dire « dans le secondaire, moi je suis dans le primaire, le secondaire c'est bien pour eux ». Ou alors on va dire « dans le privé, oui c'est bien dans le privé ». Ou alors il y a le catéchisme, ou alors il y a une autre discipline qui va s'en occuper, mais pas moi. Donc vous voyez, on externalise, c'est ce que j'ai appelé l'externalisation, à d'autres temps, d'autres lieux, d'autres disciplines aussi. Voilà. En même temps, je peux dire quelques exemples. Hein. Je me dis qu'il y a le catéchisme pour ça. Voilà. D'autres diront parler des différentes religions, pourquoi pas, mais dans le privé. Et d'autres diront en même temps, il faut se sentir capable de faire ça. Peut-être que dans le secondaire, c'est plus adapté. Donc on voit bien qu'il y a cette idée d'évacuer le problème ailleurs, d'autres temps, d'autres lieux. C'est ce que j'ai appelé donc l'externalisation. Alors, un néologisme que j'ai inventé, j'étais surpris de voir qu'il n'existait pas, c'est la déreligionalisation. Alors, je suis assez content de ce mot-là. C'est-à-dire que les enseignants, en fait, quand ils étudient des objets scolaires qui ont une dimension religieuse, quelquefois déreligionalisent l'objet. C'est-à-dire que ils désignent la stratégie qui consiste à évacuer la dimension religieuse d'un objet d'enseignement. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, travailler la scène de l'art de Vinci que je viens de vous montrer, mais pour toute autre chose que le fond. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah bah oui, oui, quand même, ça fait partie de la culture commune, bien sûr, je le travaille. » Mais alors, donc, comment vous le travaillez? Eh bien, en fait, je travaille sur les points de fuite. Parce que c'est très intéressant de voir que tous les points de fuite arrivent au personnage central, au personnage central. On ne va pas parler de Jésus non plus, parce que dire Jésus, c'est un mot qui est un peu tabou dans les établissements publics, privés un peu moins, mais au moins dans les établissements publics, c'est très compliqué de dire même ces mots-là, quoi. Donc on va le travailler sur les couleurs, on va travailler, par exemple, si on travaille sur un vitrail qui a une dimension religieuse, on va travailler de tout ce que vous voulez, sauf du fond et de ce dont parle le vitrail. Donc on va parler des couleurs, de la manière dont c'est fait, à quelle époque c'est fait, mais pas du fond. Donc ça, c'est ce que j'appelle la déreligionalisation. Donc un enseignant peut parfaitement vous dire que oui, il est d'accord de travailler l'enseignement du fait religieux, hein, mais quand on regarde concrètement comment les choses sont faites, en fait, on se rend compte qu'il parle de tout, sauf de la dimension religieuse. Alors, une autre catégorie que j'appelle le dosage homéopathique, et j'ai bientôt fini dans 5 minutes, c'est la stratégie qui consiste à expliquer succinctement les références religieuses sans ni entrer dans les détails ni approfondir. Donc, on voit une crainte des enseignants quand ils doivent parler de l'enseignement religieux, où ils vont dire, comme la Pentecôte, par exemple, je donne un semblant de réponse, je réponds à leurs questionnements, et puis on ne peut pas m'accuser d'aller faire ce que je ne sais quoi là-dessus, je suis tranquille, parce que j'approfondis pas. D'autres vont dire, enfin, quand je dis qu'on en parle, hein, je veux dire que j'en dis un mot, hein, mais on explique rapidement, on n'insiste pas, je ne m'étale pas sur la religion. Donc on voit que là aussi, il y a une mesure, si vous voulez, hein, ce que j'appelle le dosage homéopathique, hein, ou une éviction par retenue, c'est-à-dire qu'on évite d'aller dans les détails. Alors, ensuite, une autre stratégie que j'ai appelée l'informalisation ou l'invisibilité. C'est-à-dire que les enseignants vont dire qu'effectivement, le fait religieux, c'est important, effectivement, je le travaille, mais à la seule condition que tout ce que je dise ne soit pas retenu contre moi, donc aucune trace. Contrairement à ce que je viens de vous montrer tout à l'heure avec moi. On a parlé des rois mages, mais alors il n'y a pas eu de trace écrite de ce qu'on a dit. Donc ça fait pas structure, donc il n'y a pas de cours, quoi. Enfin, il y a un cours, mais il n'y a pas de trace, surtout pas. Parler de religion, il ne faut pas que ce soit un cours, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre par cœur. Il ne faut pas que ce soit imposé, chacun peut prendre ce qu'il veut. Vous voyez, donc tout à l'heure, quand on disait que c'était des contenus de croyances qui étaient transformés en contenus de connaissances, ici, ça peut être le cas, mais en tout cas, il ne faut absolument pas que les élèves apprennent quoi que ce soit dans ce domaine. Une autre stratégie aussi utilisée par les enseignants et qu'ils disent, mais que pour 50% parmi tous ceux que j'ai interrogés, qui s'appelle la dissolution. C'est une stratégie qui consiste à dissoudre un objet d'enseignement qui a une dimension religieuse parmi d'autres moins connotés, voire sans aucune connotation, là encore pour ne pas être taxé de prosélyte ou de privilégier une religion plutôt qu'une autre. C'est-à-dire, par exemple, s'ils veulent étudier un tableau, ils vont dire, oui, d'accord, je vais étudier, par exemple, Léonard de Vinci et puis la Seine, mais à condition que je travaille tous les autres tableaux de Léonard de Vinci qui n'ont aucun rapport avec la religion. Donc on va noyer, si vous voulez, les religieux dans plein d'autres choses qui ne le sont pas. Pareil pour les poésies, si on a une qui est un petit peu trop avec des connotations religieuses, comme le curé et le tigre tout à l'heure de Moreau, je crois, les enseignants vont dire oui, d'accord, mais à condition que je travaille plein d'autres poésies qui, elles, n'auront aucun rapport avec la religion. Comme ça, encore une fois, je noie, si vous voulez, le dispositif parmi d'autres œuvres qui ne sont pas religieuses. Alors celle-ci, c'est une stratégie et puis un argument qui est donné énormément, que j'appelle l'universalisme impératif. Oui, d'ailleurs, je l'ai entendu ce matin aussi, et ça, c'est pas sans poser de problème. Parmi tous les objets scolaires qu'on a enseignés, le problème, c'est que 80% des objets scolaires que vous avez à transmettre quand elles ont une dimension religieuse, c'est une dimension religieuse chrétienne. C'est comme ça. Moi, j'ai regardé, par exemple, les préconisations pour l'histoire des arts. Eh bien, vous avez 25% des œuvres qui sont proposées qui ont une dimension religieuse, et parmi ces 25%, 80% ont une dimension religieuse chrétienne. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse de l'universalisme, mais ça pose un sacré problème. D'abord, pratiquement. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous le dis déjà. C'est une stratégie qui consiste à affirmer devoir travailler impérativement plusieurs religions quand l'une d'entre elles est travaillée en classe. Ça, c'est une confusion entre le culte et la culture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous travaillez une œuvre de culture, il n'y a pas à se donner l'obligation de travailler une autre œuvre qui aurait des références religieuses d'autres religions. Donc ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, concrètement, ça amène en fait à l'inaction ou à l'impossibilité d'agir parce qu'on n'a pas le temps n'est pas extensible. Et déjà, travailler une œuvre, c'est long. Alors si vous, en plus, on se donne l'obligation de travailler d'autres œuvres qui ont des dimensions religieuses d'autres religions, bon, en fin de compte, on ne fait plus rien. Donc ça, c'est ce que j'appelle donc l'universalisme impératif. Et puis Lola en a parlé tout à l'heure, c'est ce que j'appelle la sous-traitance pédagogique ou l'élève-maître. Et effectivement, alors ça c'est aussi un argument, c'est un petit peu en lien avec l'invisibilité ou pas laisser de traces. C'est-à-dire que l'enseignant ne va pas engager sa parole quand il devra traiter un objet scolaire qui a une dimension religieuse et donc va faire appel aux élèves de la classe pour faire le cours. Donc par exemple, si on a un petit musulman dans la classe, on va appeler le petit musulman pour lui dire « Bon alors, toi qui sais, puisque tu es musulman, fais-nous le cours. Alors toi, puisque tu as fait ta communion, dis-nous ce que c'est que le baptême ou la communion ou la crucifixion. » Vous voyez, on va faire appel en fait aux élèves pour faire le cours. Et bien sûr, je peux vous donner un exemple, c'est intéressant. Pour la Pentecôte, je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Pour Pâques, qu'est-ce qu'on a raconté? Ah, tu vois, je me sers de ce que disent les enfants, mais je ne me souviens plus. J'interroge les enfants et je m'appuie sur ce qu'ils savent. Vous voyez, donc là aussi, c'est une stratégie qui est très utilisée pour pouvoir faire ce que les enseignants estiment être du fait religieux. Alors, donc pour agir et pour faire ce que vous avez vu tout à l'heure, en tout début, là, eh bien, j'avais comme grille de lecture la typologie que je viens d'expliciter. J'ai évité à tout prix la sous-traitance pédagogique, même si vous voyez que c'est les élèves qui interviennent, évidemment, tout le contenu et le savoir, c'est moi qui l'ai apporté en classe. J'ai essayé de ne pas tomber dans le piège de l'universalisme impératif. Ce n'est pas parce que j'ai visité une cathédrale et que j'ai visité et que les élèves ont acquis des connaissances sur des éléments de culture qui proviennent de la religion catholique que je me suis donné comme impératif de travailler autre chose dans d'autres religions, parce que ce sont des éléments de culture et pas des éléments de culte. Je n'ai rien dissous, c'est-à-dire que je n'ai pas parlé en même temps que j'ai parlé des histoires des évangiles, des trois petits cochons ou du petit chaperon rouge, comme certains enseignants disent qu'ils font, hein, c'est-à-dire qu'ils travaillent de cette manière pour bien montrer que tout ça est à peu près la même chose. Je n'ai pas évité les traces ni limité les connaissances, et ça, là, vous l'avez bien vu, les traces de la vidéo qui est ici, les parents, y ont accès, bien entendu. Je n'ai pas déreligionalisé les objets de culture que vous avez... que les élèves ont présenté, ni attendu qu'ils soient plus grands pour les faire découvrir. Et là, je suis complètement d'accord avec Lola, les élèves ont une appétence énorme pour ce genre de travail et pour ce genre de culture, et je n'attends pas qu'ils soient dans le secondaire pour pouvoir travailler ce genre de choses. Je n'ai pas considéré que ce que les élèves ont découvert était la propriété de l'Église catholique, ni ne me suis en aucun cas censuré. Donc en fait, cette typologie m'a permis d'agir. Comme l'a dit Pierre Kahn ce matin, je construis le bateau en même temps que je suis sur l'eau. J'essaye. Voilà, vous avez vu donc un exemple qui a été éclairé par ma propre pratique, mes propres recherches pour l'instant. Et j'espère que ça vous éclairera, vous aussi. Merci beaucoup.
Merci. Donc on va quitter les métaphores maritimes, a priori. On va faire un petit changement de place. Voilà.
Alors, je vais vous proposer un exposé qui concerne quelque chose d'un peu plus large, en fait, que l'enseignement du fait religieux, puisqu'il concerne, en fait, plus généralement, les situations liées aux religions. Donc, pas forcément dans le cadre d'un cours d'histoire, par exemple, dans un chapitre sur le début du christianisme ou le début de l'islam. Ça peut être dans d'autres cadres également. Ça peut être pas forcément d'ailleurs dans la classe, ça peut être dans la vie scolaire, comme on l'appelle, dans les couloirs, à la cantine, etc. Bon, je vous donnerai pas tous ces exemples-là, mais quelques-uns. Alors, je vais me concentrer aussi sur les collèges défavorisés en essayant de faire une comparaison entre plusieurs établissements pour montrer que, comme vous le savez, hein, en fonction des contextes locaux, en fonction du public accueilli, en fonction également du rapport des enseignants à la direction de l'établissement, en fonction du collectif enseignant, comment il se construit, comment il évolue, eh bien, les situations vont d'abord apparaître ou apparaître de façon plus rare, ou bien ne pas apparaître du tout. C'est du moins une hypothèse qu'on peut formuler. Hein. Selon la façon dont le collectif enseignant se construit, des situations peuvent apparaître ou pas. Et puis également, les résolutions de ces situations-là, ou le traitement de ces situations, ou l'action tout simplement dans ces situations, va être différente en fonction de la construction du collectif enseignant. Et les résultats que je vais vous présentés sont issus de la recherche RODISCO, qui s'appelle, qui veut dire Religion, discrimination et racisme en milieu scolaire, avec un site internet que vous avez ici, rodisco.hypothèse.org. C'est une recherche qui est dirigée par Françoise Lantôme, qui fera un exposé demain en tant que grand témoin. Et c'est une recherche qui mobilise une quinzaine, on va dire, à peu près, d'enseignants-chercheurs. Nous avons jusqu'à présent travaillé sur environ 80 établissements de mémoire, je ne sais plus exactement. En tout cas, on a fait 700 entretiens, ça j'en suis persuadé, dans 7 académies françaises. C'est aussi une recherche qui a une dimension internationale, mais là je vais me concentrer simplement sur le cas français. Et je précise aussi que c'est une recherche qui est portée par l'Université de Lyon et notamment le laboratoire éducation, culture et politique. Alors avant toutefois de passer à la présentation de ces quelques résultats, je voudrais donner mon positionnement par rapport à ce qui a déjà été un petit peu dit aujourd'hui, surtout ce matin, en ce qui concerne les ressources, en fait. Parce que je vais essayer de vous proposer un exposé qui, pose un questionnement un petit peu différent, qui décale le questionnement, puisque notre idée, en tout cas mon idée, c'est que les enseignants, pour travailler dans une situation liée aux religions, ont des ressources, mais ces ressources ne sont pas forcément des ressources comme on l'entend, comme on l'a un peu entendu aujourd'hui, c'est-à-dire des ressources extérieures qui seraient faites par un institut spécialisé ou une association. Ça peut être des ressources, ancrées dans le contexte. Par exemple, ça peut être l'expérience personnelle de l'enseignant, son parcours personnel. Ça peut être également, comme je l'ai déjà suggéré, tout simplement le collectif enseignant ou certains objets qui permettent de construire le collectif. Alors, sur cette question de ressources, je voudrais vous soumettre déjà une situation de classe et vous demander peut-être rapidement ce que vous pouvez en penser. Voici une situation en classe de CM2 où l'enseignante pose 3 questions aux élèves sous forme de consignes. Hein. Ils doivent travailler dessus. La première question, c'est qu'est-ce que la religion ? La deuxième question, c'est qu'est-ce que la religion peut apporter à l'homme ? La troisième question, c'est qui est Dieu ? La réponse de l'enseignante, donc après les élèves travaillent, et puis l'enseignante inscrit la réponse au tableau, celle qui n'émerge pas en fait de l'interaction entre élèves, mais qui est vraiment celle de l'enseignante. La religion fait connaître Dieu à l'homme. Alors, est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir ? Est-ce que c'est une bonne pratique ? Comme parfois le terme est mentionné, a été déjà utilisé aujourd'hui. Ou c'est une pratique ? Plutôt une bonne pratique ou juste une pratique ? Alors, c'est vrai que c'est...
La réponse, elle a été donnée par l'enseignant, c'est ça ? Sans écouter ce que les élèves ont dit ?
Alors, il y a aussi cette dimension-là, oui. Mais simplement, parce que moi, comme c'est, disons, une séquence qui dure entre 15 minutes et 30 minutes, donc moi, je vous présente simplement les éléments centraux de la séquence. Alors, moi, je donne cette... en fait, c'est une séquence filmée que je donne... à travailler à mes étudiants de sciences de l'éducation qui se destinent pour la plupart aux concours et aux métiers de professeurs des écoles. Et les étudiants me disent, alors certains, hein, ça dépend, me disent que là, par exemple, la première question, elle est intéressante. La seconde, par contre, déjà, elle est peut-être un peu orientée parce qu'elle suggère l'idée d'un apport de la religion à l'homme. Hein. Pas un apport nécessaire, parce qu'il y a le peu qui modalise, on va dire, mais quand même, on pourrait être plus neutre, on pourrait dire qu'est-ce que la religion, comment la religion influence-t-elle l'homme, par exemple ? Quelle est l'influence de la religion sur l'homme ? Ça pourrait être aussi simple, mais ce serait plus neutre. Et la question qui est Dieu, selon certains étudiants, en tout cas, et selon moi, hein, clairement, puisque j'adhère à certains principes de laïcité, elle suggère que Dieu existe, en fait. On pourrait se demander que veut dire le mot Dieu ? Ou voilà, quelle est cette idée-là ? Mais qui est Dieu, ça suggère que Dieu existe. Également, la religion fait connaître Dieu à l'homme, ça me semble complètement orienté, puisque ça suggère déjà l'idée que la religion serait une connaissance. Or, la religion, c'est plutôt un acte de foi, enfin, en tout cas, certaines religions, hein, qui, justement, excluent l'idée de connaissance. La foi, c'est croire, justement, par une certaine confiance, parce que je ne peux pas savoir. C'est bien ça, la définition de la foi, en tout cas dans certaines religions. Et la réponse même suggère que si vous n'avez pas de religion, vous ne pouvez pas connaître Dieu, et donc il y a une connaissance qui vous manque. Donc pour moi, c'est une valorisation de la religion. J'imagine que vous ne serez pas tous d'accord avec cette interprétation-là, mais voilà, c'est une impression en tout cas que font aussi certains étudiants de licence 3 qui veulent être professeurs des écoles. Alors maintenant, je vais dévoiler d'où vient, en fait, cette séquence pédagogique d'une ressource qui a été mentionnée déjà, la plateforme Magistère, en fait. Voilà. Mais ce que je veux simplement dire aussi, là, c'est que les ressources peuvent être intéressantes, mais elles pourraient aussi, parfois, aller à l'encontre hein, d'un objectif d'enseignement du fait religieux, parce qu'elles pourraient créer une certaine... confusion sur les objectifs de cet enseignement. Alors, c'est pour ça que, aussi, là, je vous propose d'aborder la question des situations liées aux religions autrement que par l'entrée des ressources et des prescriptions, parce que j'ai entendu également ce terme-là en matinée. Hein, les enseignants devraient se saisir davantage des prescriptions institutionnelles. Ben, peut-être, avant de dire cela, allons voir quelles sont les ressources en situation des enseignants, dont disposent les enseignants dans les établissements scolaires. Alors, voilà, je vais maintenant passer à une analyse qui n'entre pas par la question des ressources institutionnelles et des prescriptions. Bon, d'abord, avec un exemple qui me semble vraiment très intéressant. Alors, peut-être une autre chose... J'en ai parlé à Lola Petit tout à l'heure pendant la pause du déjeuner. Justement, ça, j'avais besoin de le dire parce que je suis en désaccord avec vous. On m'a invité alors que j'ai écrit des textes critiques sur Enquête. Mais je trouve ça justement très, très intéressant, en fait. Ça, je voulais vraiment dire aussi. C'est très intéressant. C'est comme Philippe Forêt a commencé un petit peu tout à l'heure à, exprimer, vouloir susciter la controverse. Et de la même façon, voilà, je vous remercie, je trouve ça très intéressant de faire un colloque qui permet d'exprimer des points de vue divergents et de susciter le débat. Alors, maintenant, je vais donner un exemple, bon, un peu long, hein, excusez-moi, mais qui, d'abord, voudrait illustrer un peu les contraintes du métier d'enseignant et qui voudrait montrer que, vraiment, la question n'est pas facile. Hein, voilà, ça, on est tous dans le même bateau, tiens, justement. Continue les métaphores maritimes. Hein, voilà. On est tous dans le même bateau. C'est très compliqué, tout ça. C'est très compliqué. Alors, pour illustrer la complexité, je vous donne cet exemple-là. Il s'agit d'une enseignante du collège Gagarine, qui est anonymisée, bien sûr, ici, qui raconte ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a fait. On partait 3 jours camper avec une classe, en fait, à la rentrée scolaire. L'idée, c'est on part camper pour bien se connaître, pour avoir de bonnes relations, hein, ça se fait souvent, et puis comme ça, l'année scolaire, elle est plus paisible, en termes de vivre ensemble, justement. Parce qu'on a parlé aussi de vivre ensemble ce matin. Alors elle dit, on partait 3 jours camper, on devait tout faire. Il fallait monter les tentes, faire le feu, barbecue, etc. Et là, on avait le problème de gamins qui mangeaient halal. Parce que quand on est en camp et qu'on n'a rien, et qu'on a juste 2 grilles pour faire griller nos viandes, nos saucisses sur le feu, ça pose un problème. Parce que si eux mangent halal, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas manger halal si ça cuit sur les mêmes grilles, si ça a touché à un moment donné, la nourriture des autres. Donc c'était super problématique, donc on avait décidé, pour nous simplifier la tâche, de faire manger tout le monde halal. On a opté pour cette option-là, ce qui par contre a posé énormément de problèmes aux parents franco-français qui ne voyaient pas pourquoi, effectivement, ils trouvaient ça, au niveau de la laïcité, hyper choquant. Alors, de la même façon, peut-être que parmi vous, il y en a qui sont choqués, et si on est à cheval un peu sur les principes laïques, ce qui est pas mal non plus, de temps en temps, on peut considérer effectivement que c'est hors du cadre laïque, hein, de faire manger tout le monde halal, puisque certes, faire manger des élèves supposés musulmans halal dans le cadre scolaire, même si c'est une sortie, c'est déjà problématique, mais de faire manger des élèves qui ne le sont pas, supposément, en tout cas, c'est encore plus problématique, puisque manger halal, je le rappelle, c'est pas comme le bio. Manger halal, c'est... Parce que certains disent cela, que c'est un peu que c'est comme le bio, mais non, parce que manger halal, ça subventionne un culte, en fait. Ça subventionne les sacrificateurs, les agences de sacrification, etc. Un business, en fait, aussi. Ça subventionne une religion, mais aussi un business. Comme l'a montré, par exemple, Florence Bergeau-Blaclair dans un livre de 2017, je crois, qui s'appelle « Le halal ou l'invention d'une tradition ». Alors, à ce moment-là de l'entretien, une enseignante d'histoire-géographie écoutait notre conversation et s'est permise, en fait, elle écoutait déjà, et elle s'est permise d'interrompre notre conversation en disant « Bah oui, c'est hyper choquant ». Alors déjà, ça illustre une chose intéressante, c'est que c'est peut-être pas un hasard si c'est une enseignante d'histoire-géographie, là. Assez souvent, dans les établissements, les enseignants d'histoire-géographie connaissent, ont des visions parfois différentes de la laïcité, bien sûr, mais connaissent les principes de laïcité. Voilà, et là, elle suggère qu'en fait, l'enseignante d'anglais aurait dû rester sur les principes. Mais l'enseignante d'anglais essaye de se défendre. Elle dit, mais je comprends. Déjà, elle dit, je comprends. Je comprends. Donc, ça veut dire qu'elle connaît bien le principe de laïcité, le cadre laïque. Je comprends, parce que du coup, on fait rentrer le problème de la religion dans les établissements. Mais notre objectif, c'était le vivre ensemble au sein de notre collège, et c'était ça qui nous permettait après de créer un lien qu'on maintient tout au long de l'année avec les gamins qui posent problème. Alors, ce qui est ici intéressant, c'est que l'enseignante a certes transgressé la laïcité, mais elle a été vraiment contrainte. Elle a eu des contraintes. Alors évidemment, on pourrait dire il aurait fallu imaginer un autre type de sortie, etc. C'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs. Je lui ai demandé, vous auriez pu peut-être penser à des repas végétariens. Mais elle dit oui, mais à ce moment-là, c'est pas un camping. Il n'y a pas de barbecue. Et on ne peut pas faire vraiment griller des haricots sur une grille de barbecue. Donc bon, alors évidemment, c'est pas forcément très... très convaincant. Mais en tout cas, elle a des contraintes. Et dans une perspective sociologique que je n'utilise pas d'habitude, mais qui est assez intéressante, empruntée à Bruno Latour. On peut même dire que c'est en quelque sorte l'objet grille de barbecue qui a transgressé la laïcité, quoi, en fait. Bon, mais ça, je vais, c'est un peu pour provoquer. Bah, en fait, Bruno Latour dit que les objets agissent aussi, c'est-à-dire pas forcément que les humains, mais il y a des acteurs non humains, selon lui. Hein. Alors, c'est une idée un peu bizarre, mais en fait, elle est assez intéressante dans certaines situations pour montrer les contraintes des enseignants. Alors, bon, il me reste 2 minutes, c'est ça, hein. Alors, je voulais rentrer dans le détail de 3 collèges, et j'avais des exemples, mais je vais simplement vous esquisser les différentes façons d'agir dans les situations liées à la laïcité dans 3 collèges REP+. Alors, c'est des collèges où, donc le premier collège qui est nommé ici Collège Léon Blum, accueille un public de 90% de musulmans, je mets ça entre guillemets, puisqu'on ne peut pas le savoir, mais c'est les enseignants qui le disent spontanément, le proviseur aussi, le principal, pardon. Et on a un taux très élevé de catégories sociales défavorisées, ouvriers et inactifs, 87%. Et dans ce collège, on a une forme de collégialité, un esprit d'équipe qui inclut la direction, et les situations liées aux religions sont résolues facilement. Alors, en fait, on se rend compte que pour les résoudre, ces situations liées aux religions, ou simplement pour agir dans ces situations, eh bien, il suffit... il y a une chose qui est vraiment primordiale, c'est, par exemple, l'utilisation du téléphone portable pour aller vite, pour se donner des informations rapidement, pour se coordonner, ce qui n'est pas toujours fait, qui est en fait rarement fait dans les collèges. Alors voilà, je ne vous donne pas d'exemple, mais c'est simplement pour dire que la ressource ici, c'est pas forcément un contenu, mais c'est un objet, encore une fois, le téléphone portable. Alors je peux vous montrer juste également, on m'explique dans ce collège que les enseignants donnent leur numéro de téléphone personnel aux familles. Ou alors, je passe les détails, mais beaucoup d'entre eux donnent leur numéro de téléphone personnel aux familles. Et puis, on n'hésite pas à utiliser le téléphone. Alors, je vous donne un exemple sur le CFG. Alors, ça, c'est en SECPA, c'est le brevet des collèges en SECPA, le certificat de formation générale. C'est la directrice de la SECPA qui dit ils vont passer leur CFG pendant la période du Ramadan, ils vont avoir une convocation individuelle, ils vont venir passer leur épreuve, parce qu'on va téléphoner, dire que ce quart d'heure d'oral est important, donc ils vont venir. Il n'y a pas de difficulté, uniquement des modalités de résolution à trouver en commun. Voilà, la ressource ici, c'est le téléphone. Voilà, pour aller vite, je ne peux pas rentrer dans le détail, malheureusement. Ensuite, dans un autre collège... La direction, donc également plutôt défavorisée, REP+, la direction est considérée comme incompétente et elle est même méprisée. Mais justement, cette configuration fait que les enseignants se soudent, enfin, forment équipe contre la direction. La direction, en fait, fait un peu office de bouc émissaire dans ce cas-là. Et le collectif enseignant se soude et... Les enseignants, la plupart d'entre eux, disent clairement que notre force dans cet établissement, c'est de pouvoir instaurer des règles communes grâce à une convivialité qui fait que les élèves voient qu'on est soudés. Donc, dans ce cadre-là, probablement qu'ils n'essayent pas de nous tester, comme on dit, en utilisant, par exemple, des ressources, enfin, des raisons religieuses du type « j'entre pas dans une église parce que je suis musulman », mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'embêter l'enseignant, de pas travailler sur tel ou tel sujet, etc. Donc voilà, ça, je reste là-dessus, je peux pas aller dans le détail, malheureusement. Et puis, on a un autre collège REP+, qui n'a pas été enquêté par moi, mais par Charlène Ménard, qui est une doctorante de notre groupe de recherche sous la direction de Françoise Lantôme, où, justement, c'est un peu le contre-exemple. Il y a peu de bienveillance et peu de convivialité entre les enseignants. Alors, je donne juste un exemple. Il y a une photocopieuse pour 60 enseignants. Voilà. Et en plus, cette photocopieuse, elle est souvent en panne. Donc déjà, les conditions matérielles font que on peut pas s'entendre en quelque sorte. Hein, on se bat pour la photocopieuse. Bon, je simplifie un peu, mais c'est pour aller vite. Avec des conditions de travail comme ça, il est difficile d'instaurer de la convivialité, un esprit d'équipe qui ferait que les élèves sentiraient un collectif et essaieraient moins de tester les enseignants. Alors, je reviens peut-être juste une seconde sur l'idée de tester les enseignants. Ce qui arrive souvent dans les collèges de type REP+, c'est quand il y a un nouvel enseignant. L'enseignant qui est là depuis 10 ans, on le connaît, on ne va pas le tester, on sait comment il fonctionne. Mais quand il y a un nouveau, là, on va essayer de voir si on ne peut pas le déstabiliser avec, par exemple, des arguments de type religieux. Et là, le collectif est vraiment hyper important, puisque un enseignant qui est soudé au collectif peut connaître un peu les règles implicites qui fonctionnent dans l'établissement et pourra montrer, suggérer aux élèves que vous voyez, je fais partie du collectif, et bien que je sois nouveau ou nouvelle, et bien je suis dans l'établissement et il n'est pas pertinent, on va dire, n'essayez pas de me tester, etc. Voilà. Bon, je dois terminer. Merci. Comment ? Je peux conclure ? Alors, je vais juste conclure. Vous voyez, j'avais plein de choses. Mais je crois qu'on a été retardé un peu. J'ai pris trop de temps tout à l'heure. Alors, voilà ma conclusion. C'est sur les règles de convivialité. Voilà, c'est simplement pour insister sur le fait que... Alors, la convivialité, ça peut sembler... Dans les établissements, ça peut sembler banal, voire secondaire, mais en fait, c'est très important quand on lit la sociologie du travail ou ce qu'on appelle la psychodynamique du travail. Hein, la convivialité permet de créer des règles implicites puisque le travail enseignant n'est pas une application de prescription institutionnelle ou une application de recette, en fait. Les règles se créent souvent, enfin les règles susceptibles de bien fonctionner, certaines règles susceptibles de bien fonctionner sont des règles qui se créent de façon immanente au contexte. Voilà, c'est un peu obscur ce que je dis là, mais c'est parce que je n'ai plus trop de temps. J'ai plus de temps du tout.
Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation.